de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 2 octobre 89.
Détail pratique, soyez très libre pour l'assistance au cours. Très libre, avec toutes les permissions qu'il faut. Mais je parle surtout de la manière de suivre. Il y en a qui ont besoin de prendre des notes. Je crois que souvent, ça maintient notre attention. Mais il y en a d'autres qui aiment mieux uniquement écouter. Vous voyez, c'est pour ça que là, il faut être très très souple là-dessus. C'est là où je dis qu'il faut être très libre. Vous verrez vous-même. Parce que la philosophie, telle que nous la faisons, c'est quelque chose de nouveau pour la plupart des nouveaux. Les anciens, qui ne sont pas très anciens, commencent à comprendre un tout petit peu ce que c'est que la philosophie. Il faut du temps. Il ne faut pas vous inquiéter au début de ne pas voir. Quand j'étais étudiant et que c'était mon frère, le père Thomas, qui enseignait la philo, après le premier cours, je lui ai dit « Je ne comprends rien à ce que tu as dit. » Et elle m'a dit tout simplement « Tu crois que je fais le cours pour toi ?» Étant donné que j'arrivais et qu'il y avait 2 années, c'est 3 ans, comme ici. Je fais le cours pour la 3e année. Alors j'ai compris qu'à partir de là, il fallait me taire, écouter, essayer de comprendre quelque chose, m'accrocher. C'est quand un train va très vite, on s'accroche à toute force, on a tout sur fonctionnement. On ne regarde rien du paysage, mais on s'accroche. Alors quelquefois, il faut s'accrocher comme ça. Et vous avez des parrainages qui vous aideront. Et puis ici, on est en famille. Hein. Alors vous le dites. C'est vous le dites, vous tout simplement. Mais il faut du temps, je vous avertis. Quoi. Surtout pour la métaphysique, il faut du temps. Alors, d'abord, une question de mots. Aujourd'hui, on met dans le même sac, ce qui prouve qu'on ne sait plus du tout ce que c'est. Métaphysique, philosophie première, ontologie, tout ça est mis dans le même sac. Ontologie fondamentale, Heidegger. Heidegger dit, la métaphysique est terminée, il faut une ontologie fondamentale. Mais ontologie, qu'est-ce que c'est? C'est ontos, logos, en grec, le logos de ce qui est. Or, le logos de ce qui est, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la métaphysique. Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin de changer de mot? C'est très curieux, ces choses-là. L'ontologie, c'est pas vieux comme mot. 17e siècle. Le vernis du 17e siècle, c'est le vernis le plus difficile à enlever dans notre culture française. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est vrai, ça, c'est vrai. À beaucoup de points de vue, même point de vue moral. C'est pas vieux. Métaphysique, c'est inventé après la mort d'Aristote, je crois 200 ans après, ou 300 ans. Donc presque contemporain de l'ère chrétienne. Et saint Thomas dira toujours métaphysique. Philosophie première, c'est inventé par Aristote. Platon ne parle pas de philosophie première, il parle de philosophie tout court. Et Aristote, le premier, vous verrez ça dans votre cours sur Aristote. Aristote, le premier, a organisé. C'est comme un embryon, point de départ. Hein. génétique. Et puis dans l'ordre de nature. Alors, là aussi, je voulais souligner, donc voyez bien, philosophie première, c'est le terme que j'aime le plus, parce qu'il est le plus moderne et le plus ancien. La fumologie Husserl parle de philosophie première. Ça ne me gêne absolument pas. Donc la philosophie première est admise par tout le monde. Métaphysique, les Heideggeriens le refusent. C'est fini. Ils acceptent. Il y a eu un temps pour la métaphysique. Mais maintenant c'est périmé avec Heidegger. Heidegger a fait l'enterrement de première classe de la métaphysique. Cet enterrement avait déjà eu lieu avec Kant. Kant avait supprimé. Déjà, avant Kant, Occam, la logique. C'est la logique qui absorbe la métaphysique. Vous voyez, la pauvre métaphysique, hein, elle a été cuite à diverses sauces. La sauce logique avec Occam. La sauce des formes transcendantales, a priori, avec Kant. Le rejet de la métaphysique. L'ontologie fondamentale. Alors, l'ontologie, vous voyez, c'est tout simplement le logos, le discours sur ce qui est. Voilà les différents termes. Bon, il faut savoir que tout ça regarde approximativement la même réalité. Mais j'aime mieux employer le terme philosophie première. J'aimerais mieux que dans l'école Saint-Jean, on parle de philosophie première, puis c'est tout. Tout en disant, c'est la métaphysique de saint Thomas. Et c'est la philosophie première d'Aristote. Il y a une continuité d'Aristote jusqu'à nos jours. On essaiera de comprendre ça. Deuxième petite remarque. Tout à l'heure, je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ordre génétique, où de fait, ces divers aspects de la philosophie sont apparus. La logique, c'est Aristote. La critique existe déjà avant Aristote, avant la logique. Première forme de réflexion. C'est très élaboré, la logique. C'est l'aspect le plus élaboré de la philosophie. C'est pour ça que certains disent qu'il n'y a que la logique qui est intéressante, parce que c'est le plus élaboré. C'est le dernier, c'est le Benjamin qui est apparu. Toutes les autres formes existent avant. Et la logique, aujourd'hui, est dépassée par la logique mathématique. Et la logique mathématique revient à la logique d'Occam. C'est Occam qui a fait un grand tournant. Bon, ça c'est simplement pour vous rappeler des terminologies, c'est toujours important. Quand vous suivez le cours et qu'il y a des termes que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, notez le terme. Si vous arrivez à le noter, notez le terme pour le demander à vos parrains. Première œuvre du parrain, c'est d'expliquer l'explication des termes. C'est très important. Quand vous suivez le cours, notez les choses que vous ne comprenez pas, ce qui est très difficile. Là, vous notez comme vous pouvez cette bête curieuse qui est apparue tout d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne demanderai pas à la fin du cours, est-ce qu'il y a des questions, puisqu'on garde le silence. Mais notez, et vous pouvez toujours, et je dis ça surtout pour les deuxièmes et troisièmes années, communiquer au Père Gabriel les questions. Ou, vous verrez, au Père Marie-Dominique, des questions. Ou vous les mettez sur la table pour que je puisse y répondre. S'il y a trop de questions, on fera un cours de réponse aux questions de temps en temps. C'est pas plus marrant du reste. Pour qu'il puisse y avoir un dialogue, on coopère ensemble. C'est ça, je crois, le propre d'ici, c'est qu'on n'est pas très nombreux, pas trop nombreux. On peut faire un cours qui implique un certain dialogue. Et c'est important, parce qu'il y a des tas de choses. Si jamais dans le cours, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours lever la main. Au début, ne faites pas trop, parce que vous agacez votre voisin. Alors, par charité, mais vous notez les difficultés. Mais ceux qui sont en troisième année ont un privilège particulier, parce qu'ils comprennent déjà pas mal de choses. Et certaines secondes années, ils peuvent lever la main en demandant des questions. Je vois pas d'inconvénient absolu. Si ça arrive trop souvent, on attendra pour avoir la réponse. Génétique, donc l'ordre génétique de découverte, la philosophie première arrive en dernier lieu. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. La philosophie première, c'est la philosophie de ce qui est. Existe en tant qu'il existe. Ça, la définition, là je pars d'un point de vue historique. Aristote a écrit un gros bouquin là-dessus. Très difficile, extrêmement intéressant. Vraiment faire de la philosophie, il faut qu'un jour vous ayez lu la métaphysique d'Aristote. Vous voyez, on appelle ça métaphysique. Aristote a dû remuer dans son cercueil quand on a dit ça, parce que c'était une philosophie première pour lui. La philosophie première, c'est le toanéon. On cherche ce qui est en tant qu'il est. Aristote ne dit pas plus. C'est toujours très 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 simple. On doit être très intelligent quand on se met à la suite d'Aristote, parce qu'il n'explique pas. Alors on doit découvrir. Aristote affirme aussi que toute la philosophie part de l'expérience. Le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience. Voilà deux grandes affirmations. Or, je n'ai pas l'expérience directe de l'être. Le père Mandané, qui était un très bon historien du Moyen-Âge, disait qu'il fallait avoir 40 degrés de fièvre pour avoir l'expérience de l'être. Parce qu'on voyait un petit nuage. Il disait ça en blaguant, mais il y croyait. passer. En tant qu'historien, elle n'avait jamais rencontré l'être. Alors elle disait ça. Petit nuage. C'est vrai, vous n'avez jamais rencontré l'être. Ce serait une de ces rencontres extraordinaires. Qui vous ferait très peur. Moi non plus, j'ai jamais rencontré l'être. Ne disons pas que l'être, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu. C'est pas l'être. C'est le « je suis ». C'est l'être absorbé par le « je ». Dieu. C'est ça, c'est pas la même chose. C'est pas le « je » absorbé par l'être. C'est le « je suis ». Nous n'avons pas l'expérience de l'être, mais nous avons. Vers nos expériences, un contact direct avec ce qui est. Mon intelligence, à travers mes sensations, touche cette table. Et je dis, elle existe, cette table. Elle est. Ben, vous ne mettez pas ça en doute quand même. J'ai pu, durant la nuit, rêver sur cette table, en disant, ah, je la retrouverai ce matin. Elle attend. Parce que tant qu'elle est là et qu'on ne donne pas de cours, elle est complètement inutile. Mais si on donne un cours, elle devient utile. On l'ennoblit, cette table. On s'en sert. Elle est. Tandis que quand j'ai rêvé à cette table, c'est un rêve. Je ne commence pas ma métaphysique par un rêve. Descartes fait ça. Le pauvre Descartes. Alors, c'est une métaphysique de rêve. C'est assez évanescent. Ceci est, ah, jugement d'existence. Ceci est. Donc, il n'y a pas d'expérience de l'être. Mais un jugement d'existence, ceci est. Mais c'est la première chose qu'on doit essayer de comprendre. Je touche cette table. Cette table existe. Oui, elle est réelle, cette table. Elle est réelle pour moi, elle est réelle pour vous. Si elle était purement subjective, dans mon rêve, elle était pour moi. C'était tout l'avantage. Elle n'était pas pour vous dans mon rêve. Quand j'ai rêvé à la table, elle est pour moi, entièrement pour moi. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Vous avez un avantage énorme dans les rêves, c'est pour vous. Pour vous tout seul. Tandis que celle-ci, elle est à l'usage commun. Alors par le fait même, elle se dégrade. Tandis que celle que je possède dans mon rêve, elle est à moi tout seul. C'est merveilleux d'être à moi tout seul. Je peux vous la communiquer, mais je la perds pas, je la garde. Elle était tellement belle dans mon rêve, extraordinaire. C'est qu'ici, la réalité, oui, c'est vraiment le bien commun. Cette table, elle est bête comme table. Elle n'a vraiment aucune grâce. Aucun style. Elle est complètement, complètement utilitaire. Complètement utilitaire. C'est le bien commun. Complètement utilitaire. Tandis que celle à laquelle j'ai rêvé, oh, elle était extraordinaire. Une table de musée, vous savez, c'est extraordinaire. Et je m'en servais, c'est encore mieux. Elle était à moi. Mais je ne peux pas commencer ma philosophie par un rêve. Et Descartes a commencé sa philosophie par un rêve. C'est extraordinaire. Un rêve. Ma table. La table sur laquelle je peux faire un cours de philosophie première. Parce qu'il faut quand même que tout soit digne de la philosophie première. Je pars de l'expérience. Ceci est. Alors, quel lien entre le ceci et l'expérience? J'ai l'expérience de manger. J'ai l'expérience d'un rêve, de dormir. C'est très curieux l'expérience de dormir. Que normalement, quand vous dormez très bien, vous n'avez pas l'expérience. Hein, vous vous en souvenez pas. Et quand vous avez un demi-sommeil, de toucher cette table. Et l'expérience externe a cet immense avantage, c'est qu'elle peut se communiquer. Après le coup, vous pourrez tous venir ici, dire oui, c'est vrai ce qu'elle a dit. Cette table existe. Et elle n'est pas banale, elle existe. Tout le monde peut expérimenter ça. Externe. Je regarde, il y a un arbre là. Ouais. Ouais, si vous mettez dans ma situation, vous pouvez le voir. Tandis que l'expérience interne, c'est mon bien propre. Ah, ça c'est très très important. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très très important. Elle est purement subjective, l'expérience interne. Ce matin, j'ai prié avec une ardeur extraordinaire. Vous aussi, j'espère. Mais mon expérience n'est pas la vôtre. Ce matin, oh, c'était dur, oraison, dur, dur, sec. Oh, j'ai une peine énorme. Cette demi-heure d'oraison, ce trois quarts d'heure d'oraison, c'était presque une éternité. J'attendais qu'on tape pour dire que c'était le terme. J'ai regardé 36 fois ma montre, c'était affolant. Si c'est ça l'oraison, c'est pas drôle. Hein. On commence la journée par un moment dur. Expérience interne. Parce qu'à côté de vous, vous aviez rencontré quelqu'un qui recevait des grâces extraordinaires. C'était extraordinaire. Et sa santé, il y avait une odeur de violette. C'était extraordinaire. Mes sens externes qui sont mobilisés. L'expérience interne, je peux fermer les yeux, je peux me boucher les oreilles. Et puis, je vis cette expérience. Vous voyez, il y a quelque chose de plus dans l'expérience externe. C'est que je vais jusqu'au bout. Je touche, je vois quelque chose qui est extérieur à moi. Dans l'expérience interne, ça fait partie de mon bien. Bien, quand je parle que la philosophie part de l'expérience, c'est toujours l'expérience à la fois interne et externe. La philosophie ne part pas de l'expérience interne. Ce sera à partir de Descartes. vous circulez en auto, de dire, mais moi je vois que c'est vert, mais après tout c'est peut-être rouge. Après tout c'est peut-être rouge, c'est pas ça, peut-être changé. Moi. Non, quand vous voyez des je sais pas, des carottes. Ben oui, les sens peuvent tromper, c'est sûr, les sens peuvent tromper. Alors, à cause de ça, parce que les sens peuvent tromper, des cartes amis entre parenthèses, les sensations externes. Il a dit la chose la plus certaine, je pense. Mais comment c'est pensé? Au fond, c'est la peur de l'erreur qui a fait qu'on a levé les ponts-levis. La forteresse. Je suis lié au monde par mes sens externes. Il a eu peur, alors il a levé les ponts-levis. Il n'y a qu'une seule chose dont je suis absolument certain. Je pense. Et quand on dit « je pense à telle ou telle personne », ça, je peux me tromper. Donc c'est le cogito dans toute sa pureté. Je pense. Il a voulu faire la philosophie du cogito. Et du cogito, il est passé à l'exister. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. C'est comme ça qu'il a fait sa philosophie. Hein. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a un risque qu'on doit rejeter une chose. C'est une très mauvaise raison. C'est pour ça qu'on dit que la philosophie de Descartes est une philosophie bourgeoise. Mais on a raison. Le risque. On vous dit qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à tel endroit, mais c'est un peu risqué. Hein. Faut faire de la montagne. Pas commode. Voilà, toute une quantité de personnes restent en bas. Et puis des gens qui, à tout prix, qui sont mordus, ben, ils y vont. Et quand ils descendront, celui qui n'est pas monté dira ah, à cause du risque, ça n'existe pas. Mais comment dire, mais vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Moi j'y étais et je sais que ça existe. Aux cosmonautes, quand ils reviennent de la Lune, vous n'allez pas dire, attends, tout ce que j'ai vu, moi j'ai pas touché, j'ai pas vu ça, donc c'est pas vrai. Mais non, pas du tout. Le risque leur a permis de connaître ça. Mais c'est exactement ça. Hein. Il y a un risque, c'est évident, mes sens peuvent me tromper. Mais je découvre quelque chose que je ne découvrirais pas autrement. Eh bien, moi je prends le risque. Vous voyez, philosophie du risque. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler la philosophie de l'expérience. Philosophie du risque. T'as une autre philosophie bourgeoise. T'as la philosophie du risque, c'est aller jusqu'au bout de ma connaissance. Si je veux être philosophe, je vais jusqu'au bout de ma connaissance. Et je veux aller jusqu'au bout de ma connaissance. Or, je sais que le premier commandement de ma connaissance, c'est mes sensations. Je touche la table. Et ça me donne une richesse, parce que c'est quelque chose qui est étranger à moi, qui me nourrit. Tandis que de l'autre côté, je réfléchis sur ce que j'ai déjà vécu. C'est du réchauffé. Et le réchauffé en bonne cuisine, on sait très bien, hein, il vaut mieux, surtout pour des frites, que ça sorte directement de vous. C'est évident, c'est du réchauffé. Il y a même quelque chose de tout à fait différent. D'un côté, je touche quelque chose de réel, direct, immédiat, toujours nouveau. C'est mon expérience. Vous voyez, philosophie de l'expérience, c'est la philosophie de l'intelligence qui veut aller jusqu'au bout en acceptant le risque. Je peux me tromper, on verra. Mais je peux très bien ne pas me tromper. Et si je ne me trompe pas, j'acquiers des tas de choses. Donc j'accepte qu'on peut se tromper, mais c'est évident, tout le temps. C'est pour ça que la critique sera nécessaire, pour montrer que c'est bien ça. Dans cette philosophie d'expérience, quelles sont mes grandes expériences? Alors, je nomme là, hein, Ceci présuppose une longue réflexion pour découvrir les grandes expériences de ma vie humaine. Le travail. Il y a toute une philosophie du travail. L'amour d'amitié. Il y a toute une philosophie de l'amour d'amitié. La coopération. C'est pas la même chose de travailler seul ou de travailler avec quelqu'un d'autre. On coopère. Le cuisinier avec le gars de sauce. Le gars de sauce coopère. On coopère. On est deux. Il y a un tandem. On est deux à pédaler. Ça va plus vite. Vous voyez, les trois grandes expériences humaines sur lesquelles se fonde toute ma philosophie réaliste. Les trois grandes expériences. Tout se ramène à ça. C'est ça qui est extraordinaire quand vous réfléchissez. Vous voyez que toute expérience se ramène à ça. Travail, amour d'amitié, coopération. L'expérience immédiate, directe. C'est ce qu'il y a de plus pratique, ça. Le travail, c'est évident. On y reviendra sur le travail avec la philosophie de l'art. Le travail, c'est ma grande expérience. Quand vous mourrez, vous pourrez dire l'expérience majeure de toute ma vie. Je ne dis pas la plus parfaite. Majeure au point de vue du temps. C'est le travail. Depuis combien de temps travaillez-vous? Non, 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 non. Le premier travail qu'on vous a donné, à l'école maternelle, puis après à l'école tout court, puis après aux écoles. C'était formidable ce qu'on a travaillé. Et puis après, le métier qu'on a pris. Et puis après, et ainsi de suite. Le travail, le nombre d'heures de travail, expérience du travail. L'amour d'amitié, ça, je ne compte plus par les heures. J'ai connu très bons amis, merveilleux, étonnants, ceux qu'on est diamétralement opposés. Mais voyez la complexité de ces expériences, hein. Elles sont internes et externes. Le travail vrai implique l'expérience de la matière que je travaille. Tandis qu'un menuisier, son expérience de travail, il a l'expérience de la matière, du bois. Il ne travaillerait pas s'il n'avait pas l'expérience de la matière. Et l'expérience de la matière implique les sensations. Et ainsi de suite. L'amitié, c'est la même chose. J'ai l'expérience de l'ami. C'est tel ami, c'est telle personne. Ah, et on vous dira, ah mais vous pouvez vous tromper, c'est peut-être son sosie. Ah, vous êtes peut-être trompé. Qu'est-ce que vous diriez ça à quelqu'un qui viendrait vous dire ça? Et quand vous avez rencontré votre ami le matin, j'ai rencontré un tel. Ah, mais non, c'est son souci, tu as rencontré, c'est pas ça du tout. Mais ça vous fout une bête imbécile. Je lui ai parlé, je reconnais tout de suite, c'est lui ou pas. Vous voyez? L'expérience a quelque chose d'évident. On colle au réel. Mais tout de suite. Si je doute, c'est parce que je suis cartésien et que j'ai trois siècles de culture cartésienne sur le dos. C'est ça qui tue la France. Trois siècles ou quatre siècles, c'est effrayant, ça. C'est quoi, tu veux dire complètement dingue, c'est pas? Se poser la question tout le temps, mais peut-être que mes sens me trompent. Peut-être que les sens me trompent. Alors, il n'y a plus aucune spontanéité. Vous avez tout coupé. Ça explique des tas de choses. Hein. D'avoir mis en doute l'expérience. Alors qu'est-ce que vous avez encore comme expérience? L'expérience de la matière, de la réalité physique, du caillou. L'expérience que vous avez de respirer le bon air et non pas un air renfermé et confiné. dans une monde physique, de la matière. Le feu me parle autrement que l'eau. Mais me parle le feu. Et le vent me parle autrement que l'eau. Et la terre me parle autrement. C'est curieux, c'est expérience, c'est quatre. Les quatre éléments avec les sens. C'est très riche. L'expérience du vivant. Je sais que je me meus. Je suis capable de me mouvoir. Et puis, au-delà de ces cinq expériences, vous voyez, là vous avez ça, je l'ai donné dans l'être à un ami. Vous avez cinq expériences type qui fondent les cinq grandes orientations philosophiques. Je réfléchis sur ces cinq expériences et je dis ces expériences sont diverses. Autre chose, travail, le travail. Autre chose, l'amour d'amitié. Autre chose, la coopération. Autre chose, découvrir la terre, l'eau, l'expérience du monde physique, l'expérience de ceux qui émuent, l'expérience de ceux qui se meut du vivant. Cinq expériences. Ces expériences sont diverses. Elles ont quelque chose de commun. Qu'est-ce qu'elles ont de commun ? Le jugement d'existence. Et ainsi de suite. C'est très curieux. Je découvre qu'il y a quelque chose de commun dans toutes ces expériences. C'est pour ça que je peux dire que le jugement d'existence, voyez, c'est la condition sine qua non de toute expérience. S'il n'y avait pas le jugement d'existence, il n'y aurait pas d'expérience. Mais ce n'est pas toujours explicite. Quand je touche cette table, je ne dis pas nécessairement « cette table existe ». Mais non, je ne dis pas. Mais c'est appliqué dedans. Si cette table n'existait pas, je n'aurais pas cette expérience. Mais si cette table n'existait pas, donc je peux mettre en lumière ce qui est comme une méta-expérience. Ce qui est au-delà de l'expérience et qui est présent dans l'expérience, ce jugement d'existence. Ce jugement d'existence est présent dans l'expérience que j'ai du travail. Ce jugement d'existence est présent dans l'expérience de l'amour d'amitié. Et ainsi de suite. Vous voyez ? J'explicite par le jugement d'existence quelque chose de fondamental de toute ma vie humaine. Ça, c'est très important à comprendre ça. La vie humaine, je travaille, j'aime, je coopère. Ma vie humaine, je prie. Ma vie humaine, je gratte sur du papier, c'est du travail, ça, c'est évident. C'est du travail. J'écoute un cours, c'est du travail. J'ai cette expérience. Et dans cette expérience, il y a un jugement d'existence non explicité, ceci. Je peux donc mettre en lumière ce qui est implicite dans toutes les autres expériences. Mettre en lumière ce qui est implicite dans toutes les autres expériences, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Et à partir de là, vous voyez la naissance de la philosophie première. La philosophie première naît au moment où j'explicite le jugement d'existence, ceci est. En ce sens que, explicitant ce jugement, ceci est, je suis dans l'admiration intellectuelle. Et je me pose la question. sommet de toute la philosophie, de l'ontologie fondamentale, c'était l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez, le jugement d'existence, ceci est, me permet de poser la question, qu'est-ce l'être ? Alors, nous verrons la fois prochaine ce passage de « et » à « être » pour qu'on puisse saisir cette naissance de la philosophie première. Ensuite, on verra très rapidement le sommet. Oui, l'alpha, il est ici. Et l'oméga, il est au niveau de la personne. La personne, c'est l'oméga de la philosophie première. De cette philosophie qui commence par le jugement d'existence. Oui, c'est le passage.